Bonjour, je me nomme Hélène Chabot et je suis professeure de philosophie au Cégep Gérald Bonnet. Je suis aussi co-chercheuse dans le projet ELAC, une nouvelle approche de l'enseignement de la lecture littéraire au collégial. Dans ce balado, j'interviewe des enseignantes et des enseignants qui ont expérimenté l'approche. Ils nous font part de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont fait, des bénéfices encourus et des difficultés rencontrées, bref, de tout ce qui est susceptible de vous donner des idées et des outils pour vous lancer vous-même dans l'action. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Maryse Dallaire, enseignante au Cégep André Laurendeau. Maryse a perfectionné l'usage du portfolio comme mode d'évaluation lié au processus d'apprentissage en littérature. Bonjour Maryse.
Bonjour Hélène.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Tu as expérimenté l'approche dans des cours de 102 et 103 au Cégep André Laurendeau, qui sont dans la séquence des cours de deuxième année. Donc, ce n'est pas des élèves qui commencent en littérature, ils en ont déjà fait un petit bout. Et tu as expérimenté le portfolio.
Entre autres choses,
mais aujourd'hui, on va surtout parler de ça. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui se rattachent, mais on va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on entend par portfolio, puis pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça?
Donc, j'ai choisi d'expérimenter le portfolio parce que la première des choses, c'est que je le faisais déjà avant, sous une certaine forme. J'utilisais déjà le logiciel OneNote. Je me suis habituée à l'utiliser avec la pandémie. Et puis, bien, dans le fond, ça me demandait au départ pas tant de changements que ça. Oui, j'en ai fait pas mal à cause de l'approche, là. Mais à la base, là, j'avais déjà mes méthodes aussi qui étaient assez faciles à modifier pour faire le portfolio en intégrant l'approche. Fait que ça, c'est la première des choses. Ce que je fais dans mon portfolio, en réalité, tout rentre dans mon portfolio. Ce qui fait que si on regarde la liste des artefacts que je fais faire dans le portfolio, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais la face, c'est que je morcelle mes activités. Ça va être une, deux, trois activités, trois artefacts qui vont mener à une seule activité, là, un seul produit final. Ça, c'est ce que je fais dans mon portfolio. Donc, les artefacts, ben, ça peut être des questions sur le contexte socio-historique avec de la construction de connaissances. Ça peut être des réflexions. C'est là que je rentre mon journal de bord. Parce que cette session-ci, j'ai fait portrait de lecteur, réflexion sur les savoir-faire et les savoir-être. La session dernière, j'avais entré aussi là-dedans une carte mentale pour construire un cadre de référence que j'ai moins mis cette session-ci parce que je voulais mettre davantage l'accent là-dessus autrement. Je mets aussi dans mes artefacts de portfolio les travaux préalables au cercle de lecture, des schémas. Et en équipe aussi, pendant les cercles de lecture, je mets des pratiques de plan, des activités aussi qui sont facultatives. Bref, tout entre dans mon portfolio.
OK. Donc, finalement, ça correspond un peu à ce qu'on fait traditionnellement sous forme de devoir.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui serait différent à ce moment-là?
Bien, en fait, oui, sous forme de devoir. Certaines choses, tu sais, par exemple, construction des connaissances avec le contexte socio-historique. Bon, moi, depuis longtemps, je me dis que moi, ce que j'enseigne, c'est pas l'histoire, c'est la littérature. Fait que ça, c'est le genre de choses qui se fait mieux à la maison, mais qui doit être faite pour arriver préparé pour bien comprendre les extraits qu'on va lire en classe. Mais là, si je fais faire en classe une activité par rapport à un extrait qu'on a lu ou par rapport à une œuvre littéraire qui a été lue, bien là, ça aussi, je vais le rentrer dans le portfolio.
OK, je comprends. Fait qu'il y a des choses qui sont faites par ailleurs en classe.
Exactement.
Ou du moins, ou qui sont par, ou des fois la continuité de ce qui a été fait en
exactement,
classe.
Exactement, exactement. Des fois, ça va arriver que je vais avoir, par exemple, je leur demande d'appliquer une stratégie de lecture dans un passage de l'œuvre. Là, après ça, on revient en classe, mais ils m'ont montré à l'avance dans OneNote qu'ils ont fait comme stratégie de lecture. Là, moi, je forme des équipes de travail pour faire un cercle de lecture à partir de ce qu'ils m'ont fait. Fait qu'ils repartent des informations qu'ils ont déjà, ils les réorganisent autrement, puis ils vont plus loin dans leur interprétation pendant le cercle de lecture. Après ça, on fait un retour en grand groupe. Puis des fois, ça peut même arriver que comme on morcelle les choses, bien là, ce qu'ils ont fait en classe, c'est en lien avec, je ne sais pas, c'est un remue-ménage finalement. Puis s'il y en a qui veulent, bien, ils peuvent pousser plus loin et aller créer, par exemple, une structure, là, un squelette de dissertation là, de okay. base.
OK. Fait que c'est assez varié et c'est assez nombreux aussi. Il y a beaucoup
oui,
de choses
mais...
à faire.
En réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je me rends compte que dans mes consignes, les choses reviennent. Si, par exemple, j'ai dans ma consigne qu'ils ont besoin de connaissances sur le genre narratif, mm-hmm. par exemple, mais peu importe la finalité de l'activité, c'est fort probable que ça revienne éventuellement si on travaille le genre narratif dans une séquence donnée, là.
Mm-hmm. Mais comment ça se passe concrètement là, quand tu planifies ton portfolio au début de la session, puis la séquence que tu suis en cours de session, puis le résultat final, ça ressemble à quoi en fait? Comment tu t'organises avec ça?
Quand je construis mon portfolio, en fait, au début de la session, j'ai une idée des activités de où je veux m'en aller. J'ai une idée des activités qui vont aller dans mon portfolio, mais je me laisse place quand même à l'improvisation. Puis aussi, je m'assure que toutes mes activités dans OneNote, puis même mes cercles de lecture, ils ont la même mise en page. Mm-hmm. C'est exactement la même mise en page, fait que tout se retrouve toujours au même endroit. Au début de la session, je réfléchis à quoi va ressembler ma grille de consignes. Fait que dans le fond, dans ma grille de consignes, je mets toujours la tâche. Qui est à réaliser. Ensuite, j'ai une autre colonne, ça c'est en tableau, une autre colonne avec les objectifs, une autre colonne avec les savoirs à mobiliser, une colonne avec les savoir-faire à utiliser, puis une dernière colonne avec les savoir-être à développer ou à mettre de l'avant dans cette activité-là, dans cette activité-là qui est demandée là, dans le portfolio. Okay. J'essaie toujours de réduire au minimum mes attentes et puis mes demandes, en réalité, pour leur laisser place aussi à eux de se laisser aller là, dans tout ça. Là.
OK, OK. Fait que finalement, là, pour ceux qui ne connaissent pas OneNote, je pense qu'on peut préciser
oui.
un petit peu l'outil qui est en fait un bloc-notes.
Oui, qui est partagé entre l'étudiant et l'enseignant, ce qui fait que si puis il y a beaucoup de possibilités pour l'enseignant, je peux distribuer une page à mon groupe en entier, je peux aussi corriger une seule activité, puis là, passer à travers ma liste d'étudiants, mais juste pour une seule activité. Puis j'en profite aussi quand je les corrige pour me mettre une note, dans le fond, parce qu'on peut modifier, nous, les documents, on peut bloquer pour l'étudiant lors de la remise. Moi, je bloque l'activité pour l'étudiant, ce qui fait que si quelqu'un veut me le remettre en retard, bien, il faut qu'il m'écrive pour que je puisse le débloquer. Puis en même temps, bien, ça me permet de voir si l'étudiant est assis. Dans ces choses.
Oui, OK. Donc, il ne peut pas décider de le faire la semaine d'après que tu as donné la
C'est sûr que je m'en rends compte. Puis en plus, dans OneNote, il y a comme une fonction, on voit les initiales de l'étudiant, puis quand on met le curseur sur les initiales de l'étudiant, on est capable de voir exactement quand est-ce qu'il l'a remis.
OK. Ah oui, c'est...
Il peut pas tricher, là. c'est impossible. Ouais. De toute façon, moi, je bloque des pages, puis je les avertis, les étudiants, là. OK, l'activité 2.1 était à remettre pour aujourd'hui au début du cours, je la bloque.
OK.
Et puis quand on la bloque, c'est pour toute la classe en même temps. Si vous avez eu des problèmes, vous me le dites, écrivez-moi en privé. Puis je vais... on va voir ensemble qu'on va faire avec ça. Mais tu sais, puis des fois, ça m'arrive de le bloquer comme devant eux, là, tu sais, ils me voient le faire, là, tu sais, je suis bien transparente là.
Oui. OK. Fait que ça donne beaucoup de possibilités. En fait, c'est l'équivalent d'un cahier qui est transféré en numérique, mais en tant que tel, il y a beaucoup plus de possibilités.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Puis, tu sais, en fait, un étudiant là, qui ne voudrait pas vraiment faire ces choses sur OneNote pourrait le faire sur une feuille à côté, mm-hmm. puis prendre une photo de ce qu'il a fait, puis me remettre sa photo dans OneNote. Puis, l'intérêt aussi, tu sais, par rapport au cercle de lecture, nous, on travaille sur des tableaux blancs. On a des tableaux blancs sur tous les murs, là, des classes d'apprentissage actifs. Puis moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur les tableaux blancs. Ça fait que quand ils font un schéma à me remettre dans le portfolio, dans le bloc-notes, bien, ils prennent en photo. Ça fait qu'ils en ont une trace. Mm-hmm. Toujours. T'sais, eux, ils en ont une. Moi, j'en ai une. Ça fait que s'ils veulent la faire imprimer par la suite, parce que sur les tableaux blancs, on doit effacer après. Mais s'ils veulent la faire imprimer par la suite, là, parce qu'ils vont avoir besoin de ces informations-là dans une rédaction par la suite, bien, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Ils ne sont pas obligés de recopier sur une feuille à côté.
Oui.
Pour moi, c'est vraiment comme un ramassis de tout ce qu'on fait pendant la session. Là.
Oui, tout à fait. Puis à ce compte-là, ça devient vraiment un outil pour suivre la progression de l'étudiant.
Exactement, oui. Puis c'est ça l'intérêt. T'sais, moi, j'utilise une notation sur... sur trois, mais dans OneNote, je ne mets pas une note. parce que...
OneNote,
mais pas de note. Oui, c'est ça. OneNote, mais pas de note. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je commence par regarder chaque activité. Fait que mettons, je regarde l'activité 2.1, bien, au lieu de mettre une note de 0, 1, 2, 3, l'équivalent que j'ai trouvé, c'est des émoticons que je mets dans mes titres. Ce qui fait que, bon, si la tâche n'est pas faite, je mets un gros X rouge au début du titre. Si la tâche répond partiellement à l'objectif, qu'elle présente quelques écarts significatifs qui nuisent à la précision et à l'exactitude, je mets un cercle dans le titre. Puis ça équivaut, si j'étais sur papier, je dessine pas très bien, fait que même un cercle, je ne fais pas ça, là. Ça correspond à 1 sur 3, mais ce n'est pas vraiment 3, là, hein, on s'en fout. Si la tâche répond généralement à l'objectif, qu'elle est réalisée avec un certain souci de précision malgré la présence d'éléments inexacts, là, je mets un triangle orange là, avec un point d'exclamation dedans, ça équivaut à 2 sur 3. Puis si la tâche répond à l'objectif, des fois, là, il y a des trucs, là, parce qu'on le sait, hein, quand on a une grille de consignes, il y a des choses sur lesquelles on met beaucoup plus l'accent que d'autres. Dans le fond, des fois, il y a des affaires. Des fois, je vais mettre quand même un crochet vert. Parce que c'est le crochet vert là, pour le 3 sur 3. Je mets quand même un crochet vert en précisant. Puis regarde quand même des petites consignes juste pour t'assurer là, que tout est bien compris. Il me permet au final, quand j'arrive pour corriger mon portfolio, moi, ce que je fais, c'est que là, au lieu de regarder par activité, bien là, je regarde pour l'étudiant. T'sais? Fait que je peux voir là, bien, au début de la session, bien là, j'y vais par séquence, là, mais au début de la séquence, parce que sinon, c'est trop, j'ai trop d'activités, ça va être trop difficile à regarder. Au début de la séquence, tu as quelques X rouges, des cercles, puis assez rapidement, là, on s'en va vers le bien puis le bravo. Fait que, dans le fond, ça me permet de vraiment, vraiment bien voir la progression de l'étudiant. Okay. Puis de voir si l'étudiant a pris mes commentaires en considération pour des activités futures.
OK. Fait que là, si je comprends bien, ça, c'est corrigé.
Ça, c'est corrigé.
Et il y aura une note. Donc, même s'il n'y a pas de note en cours de processus, au terme de la séquence et au terme de la session, il y aura éventuellement une note associée à ça.
Exactement.
Ça correspond à combien de pourcents?
La session dernière, j'étais en 102. Je pense que ça correspondait à 20 %.
OK.
Tu sais, parce que ça dépend, là, on a des plans cadres et tout et tout. Fait que, dans le fond, j'avais mis là-dedans toutes mes activités. Là, je suis en 103, il fallait que je me garde des pourcentages pour autre chose. Fait que ça équivaut en tout à 15 %, mais cette fois-ci, je l'ai morcelé, le 15 %. La session dernière, j'ai vraiment fait progressif, ce qui fait qu'à la fin de la session, c'est là qu'ils ont eu la note entrée dans l'EA.
Puis en cours de session, c'était formaté.
J'avais fait des mises à jour dans l'EA à 0 %, mais ça ne transparaissait pas dans leur note finale.
OK, je comprends.
Alors que là, cette session-ci, là, j'ai fait des remises, mais pour être honnête, je pense que je reviendrai à la progression comme j'ai fait la session dernière.
OK.
Je trouve que ça donne... ça permet aux étudiants, ça leur permet de bien voir leur progression, puis aussi de s'assurer qu'une chose qui est moins bien comprise au début de la session ne te suit pas à la fin de la session.
Mm-hmm.
Et puis ça, je pense que c'est franchement important dans une approche comme celle-là parce que ça laisse droit à l'erreur, tu sais. Puis moi, je trouve que ça, c'est super important parce que les étudiants, c'est normal qu'en début de session, ils n'aient pas atteint la compétence finale attendue, tu sais. Au final, je préférais finalement, là, même si c'était plus compliqué à expliquer aux étudiants parce qu'ils n'étaient pas habitués à cette façon de corriger-là, ils n'étaient pas habitués, tu sais. Puis même pour moi, ça m'oblige à faire beaucoup de rétroaction qui a l'air de passer dans le beurre, tu sais.
Ouais.
Nous aussi, il faut qu'on se fasse à l'idée de hey, « non, là, c'est bénéfique, là.
» C'est ça. Mais ça suppose vraiment d'expliquer aux étudiants en quoi consiste ce travail-là qui implique un processus, qui implique de revoir les qu'est-ce qu'on a fait au début, puis pas juste « on a fait la tâche, c'est fini, on passe à autre chose. »
Non, c'est ça, puis ça oblige les étudiants aussi à comprendre que même si, au final, des fois, la tâche n'aura pas le même aspect qu'une autre. Les connaissances sont les mêmes, tu sais, les connaissances qu'on doit utiliser sont les mêmes. Les savoir-faire, des fois, vont se ressembler aussi. Tu sais. Fait que dans le fond, eux, ça leur permet justement de constater à quel point c'est important. Ça, puis qu'il y a une continuité.
Ouais, hein,
que même si ça n'a pas l'air d'être la même chose, au final, c'est la même chose qui était demandée. La session dernière, je leur avais demandé, je ne l'ai pas fait compter dans le portfolio, j'aurais pu, mais on n'avait pas eu beaucoup de temps pour le faire. Fait que ça se passe pas juste pour qu'on s'en rende compte. Quand j'ai voulu leur remettre leur dissertation corrigée, avant de la remettre, j'ai fait imprimer un tableau vide avec tâches, objectifs, savoir, savoir-faire, savoir-être. Puis je leur ai demandé de le remplir. Qu'est-ce que ça serait cette feuille de consigne-là, mais pour une dissertation.
Ah oui?
Oui. Et là, je leur ai dit, bien, retournez voir ce qu'on a fait dans les artefacts, allez fouiner là-dedans. Et là, il y en a quelques-uns qui se sont rendus compte, ah bien, madame, vous nous avez tout montré. Vous nous avez tout montré, je n'ai pas su le mettre dans ma dissertation, mais là, je vais porter attention. Okay. Ah, j'ai gagné!
C'est ça. Fait que finalement, même si ça semble pour les étudiants être une activité à part, il y a vraiment une transférabilité là, entre le portfolio
clairement,
et la rédaction.
Clairement, tu sais, bon, c'est sûr que j'ai coupé un peu ce qui était plus de l'ordre de la création, mais même quand c'est de la création puis que ça a l'air d'être vraiment à côté de la dissertation, mais il y a plein de choses, plein de savoirs qu'on va utiliser, puis là, ça leur permet de transférer ça dans le fond, de constater que, bien, au final, là, ce qu'on fait dans les cours, c'est important.
Ouais.
Peu importe c'est quoi la finalité.
Mais je pense quand même que le fait de, justement, tu disais, là, chaque tâche a le même canevas, le même format de page avec, justement, ces énoncés d'attente qui sont sous forme de c'est quoi l'objectif, c'est quoi le savoir impliqué, le savoir-faire, etc.
Exact.
Donc, de faire ça, ça fait en sorte que c'est plus facile à ce moment-là d'identifier qu'est-ce qui est transférable après.
Exactement, tu sais, puis c'est pour ça qu'au début de la session, ça me prend comme un certain temps juste pour le mettre en place. Mm-hmm. Mais après ça, là, ça se remplit tout seul, ce tableau-là. Là. Mm-hmm. Puis je me dis aussi, je me laisse place un peu, bien pas à l'erreur, là, mais je me laisse place aussi. Là. Bon, ça se peut que c'est d'une session à l'autre, que je modifie des petites choses. Bien, ça, tu sais, j'avais placé quelque chose dans mes savoirs, puis bon, finalement, c'était pas tout à fait ça, fait que je le modifiais.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais.
Fait que nous aussi, on apprend de ça au fur et à mesure.
Bien, oui, tu sais, puis ben, moi, j'aime beaucoup ça, travailler tu sais, avec les mêmes canevas, avec les mêmes, tu sais, justement, les mises en page, puis tout ça, là, ça me permet à moi de bien placer mes idées aussi, là.
Oui, c'est ça. On va quand même parler un peu plus de la correction, donc je veux juste récapituler. parce que tu as parlé tantôt, finalement, des notes que tu donnais sous forme d'émoticons.
Ouais.
Qui correspondait en fait à des critères de qualité.
Exactement,
de la
dans le fond, c'est ça. Ouais. Tu sais, s'il y a une amélioration qui est demandée, puis si l'amélioration qui est demandée est grande ou plus ou moins grande.
C'est ça.
Puis
en fait, ces critères de qualité-là sont les mêmes, peu importe la tâche. Donc, tu n'as pas à faire une nouvelle grille de correction à chaque fois. C'est toujours
pas
la même.
Pas du tout. Dans le fond, j'utilise ma grille de consigne pour évaluer la qualité de l'artefact. Puis à la fin, dans le fond, moi, ce que je regarde, c'est la rigueur du processus, la qualité de l'engagement. Okay. C'est ça que je vais regarder à la toute fin. Fait que ça se voit dans le fond quand tu regardes la continuité. Hein,
oui, c'est ça.
Dans le fond, moi, j'utilise la grille de consigne à la fois comme grille de consigne et ouais. comme grille d'évaluation. C'est Parce ça. Que je me dis, l'étudiant, ben, il est au courant à la base, c'est quoi mes consignes, il est au courant de c'était quoi les objectifs. Si je lui ai demandé de créer un diagramme de Venn, c'est pas ça qu'il m'a fait, ça ressemble même pas. Des fois, ça ressemble quand même un peu, là, tu sais, je peux comprendre. Là.
Pas parfait non plus. Là.
Pas parfait, mais ça ressemble, tu sais, bon. Fait que, tu sais, bon, c'est correct, là. T'sais, des fois, il faut laisser place aussi à la créativité de l'étudiant, là.
Oui.
Hein, tu sais, bon. Mais si, dans le fond, ça ressemble même pas, et tu me remets, manque des choses parce que ça ressemble pas, et là, je vais souligner ça, que, ben, moi, j'ai demandé un diagramme de Venn, puis c'est pas ça que j'ai vu. C'est pas ça que j'ai reçu. Mm-hmm. Des fois, je vais ajouter aussi un commentaire, surtout en début de session. En début de session, je corrige. C'est un peu plus long à corriger parce que je formule des commentaires généraux que je peux copier-coller d'une activité à l'autre, d'un étudiant à l'autre.
Au fur et à mesure que la session avance, tu en fais un peu moins de corrections, c'est ça?
Ben oui, j'en fais moins. Un, parce que mon vocabulaire se place mm-hmm. à moi aussi, hein, dans le fond. Puis deux, parce que les étudiants deviennent meilleurs. Mm-hmm. Fait que j'ai moyen d'en faire. Puis là aussi, à un moment donné, j'avertis aussi les étudiants que comme on a déjà la grille de consigne, que je corrige avec la grille de consigne, bien, à un moment donné, dans la session, ce que je me mets à faire, c'est plus juste surligner sans mettre le commentaire. Fait que, tu sais, si je m'attendais à ce qu'il y ait des connaissances sur les procédés d'écriture, il n'y en avait pas. Mais dans le fond, je vais juste le surligner. Puis ça, il n'y en avait pas. Je n'ai pas besoin d'ajouter un commentaire comme quoi il n'y en avait pas.
C'est ça. C'est ça. OK. Fait que finalement, la charge de correction, comment
tu... Bien, c'est ça. Au début de la session, je la trouve un peu plus difficile, mais en même temps, comme au début de la session, la plupart du temps, nos activités en classe sont préparées à l'avance. Dans le fond, pas que j'ai que ça à faire, mais j'en ai moins à faire. J'ai pas une pile de correction qui m'attend. Fait que j'en profite pour mettre le plus de commentaires possible pour enligner les étudiants correctement pour les activités qui suivent. Et puis, ça me permet en plus, ça, c'est comme un plus-value, là, d'avoir une bonne communication avec les étudiants. Fait qu'au début de la session, je m'assure que je les corrige toujours le plus tôt possible. Puis j'avertis les étudiants en classe, là, je leur dis, bien, l'activité 1.1, je l'ai regardée, allez voir. On va y aller ensemble, voir dans OneNote, là, à quoi ça ressemble. Mes corrections, je veux que vous les compreniez comme il faut. Si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à m'écrire. La plupart du temps, c'est rare que j'ai des retours. Là, aussi, là, ils comprennent très bien ce qu'il y a à améliorer ou ils doivent s'améliorer aussi.
Okay.
Ça dépend aussi du type d'activité que je demande.
Ouais.
Si c'est une réflexion personnelle, c'est sûr que ça va être un peu plus long. Là, dans ce cas-là, je pense que je vais me réajuster. Ça se peut que je le change cette session-ci. Je l'ai demandé dans OneNote. Je pense que ça serait plus rapide de corriger ça à la main.
Ouais.
Il y a des choses comme ça que je me dis, des fois, ça a ses limites. Fait que, si c'est de manière individuelle, ça peut me prendre vraiment longtemps à corriger. T'sais, quelque chose comme 2-3 heures par groupe, là, puis des fois plus longtemps que ça. Là. Mais si je demande, par exemple, un schéma qui a été fait, bien là, les premiers sont un petit peu moins longs, sont un petit peu plus longs à corriger parce que je formule des commentaires. Mais comme c'est des schémas, si je demande, bon, je reviens avec mon diagramme de Venn, mais si je demande un diagramme de Venn, je sais exactement où se trouve l'information que je cherche. Fait que d'un étudiant à l'autre, c'est la même chose. Fait que c'est assez rapide à corriger. Assez rapidement, on le sait ce qu'on cherche aussi.
Oui. Okay. Ouais. C'est ça. Puis on peut planifier en fonction du moment dans la session aussi.
Là, exactement, aussi. C'est ça. Tu sais, si je le sais que là, je vais rentrer avec 2 semaines de dissertation à corriger, bien, peut-être que je ne demanderai pas en même temps une réflexion.
Non, c'est ça.
C'est pas gagnant de demander une réflexion en même temps.
C'est ça.
Oui, mais là, il y a peut-être moyen de demander une réflexion avant qu'ils fassent la dissertation pour la corriger pendant qu'eux autres y rédigent.
Ouais.
Après ça, quand je reçois mes dissertations, bien, tu sais, on... c'est ça, tu sais, je peux alterner comme ça.
Oui. Si on a plusieurs groupes, bien, on peut aussi, pour ménager nos énergies, là, entre les différentes corrections, là.
Ouais. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis il y a des choses aussi, des fois, je vais avoir des étapes qu'ils doivent faire dans une activité qu'ils font à la maison ou dans un cercle de lecture. Mais moi, dans le fond, ce que je veux regarder, pas nécessairement, oui, je veux voir si le remue-ménage est bien fait, mais si, par exemple, je leur demande à la toute fin de formuler une prise de position, bien, c'est ça que je vais corriger.
C'est ça, exactement.
Je regarde, oui, tu sais, y avait-tu dans son remue-ménage assez d'arguments pour aller chercher une belle prise de position? Mm-hmm. Mais là, après ça, moi, vraiment, ce que je veux voir, c'est le résultat final. Fait que c'est vraiment ça que je vais regarder.
Oui, ouais. L'évaluation, ça t'a aidé à clarifier tes attentes.
Finalement. Exactement, c'est ça. Ça m'a aidé pour clarifier mes attentes. Ça m'aide pour clarifier moi-même aussi mes objectifs parce que ça m'oblige à les formuler. Puis, c'est ça, dans le fond, de placer mes consignes en tableau, ça m'aide justement à la fois dans mes attentes et dans ma correction. Mm-hmm. Puis, j'avais jamais expérimenté l'évaluation progressive.
Mm-hmm. OK.
Ça, j'y réfléchissais. Ben, j'y réfléchissais déjà. Là, je me tiens au courant là, de ce qui se passe un peu là, dans le milieu. Fait que, j'y réfléchissais déjà. Puis quand ça nous a été présenté, je me suis dit, ben là, regarde, voilà, je plonge.
C'est ça. Puis finalement, les bénéfices que ça a eu, si, par rapport aux élèves en particulier, est-ce que tu as vu des améliorations significatives? Est-ce que tu as l'impression que ça... Effectivement, dans les rédactions, ça se transfère ou c'est quoi les autres avantages liés à ça?
Bien, il faut que je retravaille un peu le transfert dans les rédactions parce que je sens qu'ils ne comprennent pas toujours très bien comment ça se transfère, même si c'est vraiment, tu sais, c'est les mêmes connaissances, c'est les mêmes savoir-faire. C'est sûr que si je demande un schéma, bien là, il faut qu'ils réorganisent l'information pour que ça devienne une rédaction. Il faut qu'ils formule en phrase complète dans une rédaction. Des fois, ce transfert-là peut être un petit peu plus difficile, mais dans le fond, l'information, ils l'ont déjà à la base devant eux. Hein? Puis, bon, l'intérêt de travailler avec OneNote, c'est qu'ils peuvent justement faire imprimer les tableaux qu'ils avaient faits. Ils sont qui ont disparu. En tout cas, fait que, c'est ça, dans le fond, qu'il faudrait que j'améliore, mais c'est déjà là. Il faut juste que je réfléchisse à la façon de le transférer adéquatement. Mais ce que j'aime beaucoup avec le portfolio, c'est que ça assure un suivi qui est régulier, constant. Je pense que c'est quand même réconfortant. Quand je réussis à être à jour dans mes corrections, je pense que ça peut être très réconfortant pour l'étudiant parce qu'il sait où il s'enligne. Il y a toujours un canal de communication par l'entremise de ce portfolio-là avec moi. Directement ton professeur. Fait que je pense aussi que ça leur permet de voir que je suis accessible, que s'ils ont des questions, ou puis même dans le portfolio, s'il y a quelque chose qui est moins bien compris, ben, dans le fond, moi, je peux aller dire, ben là, ici, pour réussir cet aspect-là, je te conseille d'aller voir telle page dans l'anthologie. Ça permet aussi, ben là, après ça, ils vont m'écrire dans la conversation privée de Teams pour me dire, ben là, j'ai des petites questions là, pour mieux comprendre pour la prochaine fois.
Okay.
Fait que c'est pas mal ça, là, dans le fond. Là, ça me permet vraiment là, de prendre le temps aussi de leur dire qu'ils sont bons.
Hein? Ouais.
On a parlé beaucoup des savoir-être, mais les savoir-être, j'essaie de les utiliser cette session-ci plus particulièrement parce que moi, il fallait que je me mette ce vocabulaire-là dans la bouche. mais cette session-ci, je me suis dit que les savoir-être, je l'ai toujours mis la colonne pareille, mais je fouille rarement dedans. J'essaie de l'utiliser pour leur dire qu'ils sont bons dans le fond. T'sais. Je pense qu'ils en ont besoin de ça aussi, de faire comme hey, tu t'enlignes super bien, puis bravo pour ta belle ouverture à l'autre, tu fais preuve
de créativité.
Tu visualises très bien, c'est ça, tu visualises très bien ce qui passe dans l'œuvre, mets ça à profit aussi dans tes autres activités. Fait que, c'est ça, je trouve que c'est un bel endroit pour leur dire ces choses-là aussi.
Mm-hmm. Oui, c'est certainement profitable pour les étudiants là, de savoir qu'ils ne font pas juste des erreurs de français ou qu'ils ne font pas juste des erreurs de structure.
Oui, c'est ça, tu sais. Puis même dans le fond, là, dans le portfolio, tu sais, quand je corrige la langue de manière pas facultative, mais de manière qualitative, ben là, des fois aussi, j'en profite pour leur dire, hey, tu sais, je vois que tu es amie.
Mm-hmm. C'est bon pour la relation pédagogique, finalement.
Je pense que oui, ça leur permet peut-être d'avoir une meilleure confiance. Tu sais, puis, c'est drôle, hein, parce que des fois, en classe, il y en a qui ne parlent pas beaucoup, qui sont plus introvertis. Mais moi, je me rends compte, j'ai réussi à aller les chercher puis j'ai une relation avec eux autres autrement. Tu sais.
Ouais.
Parce qu'ils vont être plus enclins à m'écrire sur Teams.
Okay.
Oui, c'est ça. Fait que là, ça part souvent, tu sais, ils ont fait une activité dans le portfolio, j'ai fait une rétroaction, puis ils savent qu'ils peuvent m'écrire, puis là, ça engage une communication, une conversation.
Ça ouvre une porte, oui.
Oui, ça ouvre une porte, t'sais, alors que ces gens-là, si on ne va pas les chercher comme ça, ben, ils vont pas.
Ça se pourrait qu'ils viennent jamais nous voir, nous poser des questions.
T'sais. Exactement, là, tu sais, c'est ça, là.
Ah, bien, merci beaucoup. Est-ce que tu accepterais de partager avec nos collègues des exemples de tâches de portfolio et de grilles pour les corriger?
Oui, c'est sûr. Avec un grand plaisir.
OK, bien, ça serait
super. Sauf que c'est tout sur OneNote, par exemple.
C'est correct, on va aller s'informer. Mais on va mettre ces outils-là sur notre site web.
Oui, ça va me faire plaisir.
Merci. OK, bye-bye.
Ça me fait vraiment plaisir.
L'approche de l'ELAC a été développée dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par le programme PAREA avec Catherine Bélec et Roxane Doré. Pour plus d'informations, consultez notre site web elac.ca. Ce balado a été rendu possible grâce à l'Élan. La captation sonore et le montage sont réalisés par Rémi Assal.